le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. A-t-on le droit d'abandonner son animal de compagnie ? Devrait-on interdire certaines pratiques d'abattage ? L'expérimentation sur des animaux est-elle nécessaire ? Quel statut faut-il conférer à l'animal pour le protéger et pour concilier les intérêts en présence ? Nous poursuivons dans cette troisième et dernière émission dédiée à la souffrance et aux droits des animaux la conversation avec nos invités. Isabelle Desmellet, maître de conférence en droit privé à l'UBO et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Et Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges, membre de l'Institut de droit européen des droits de l'homme et directeur de la revue semestrielle de droit animalier. Dans les deux premiers numéros de cette série du Lab U, consacrée à la souffrance et aux droits des animaux, nous avons abordé la définition et la classification des animaux par les juristes et les physiologistes. Nous avons interrogé la nécessité de l'expérimentation animale. Explorons maintenant les avancées du droit en matière de protection animale et l'évolution des protocoles expérimentaux en sciences. Jean-Pierre Marguenot ouvre le débat.
Il n'y a pas beaucoup de juristes qui travaillent sur les fronts de la défense des animaux. Il y en a quelques-uns, il y en a de plus en plus. Et c'est assez merveilleux de constater à quelle vitesse des collègues juristes qui tenaient ces questions pour des personnes de pure fantaisie se mettent à prendre la question à bras-le-corps et à changer quelquefois leur point de vue traditionnel pour la communauté des juristes universitaires. En tout cas, les questions qui concernent les animaux, c'était le prototype des questions folkloriques, secondaires, auxquelles il n'y avait pas de temps à consacrer. Et c'est en train de changer rapidement. Mais pas avec une ampleur suffisante pour qu'il y ait de véritables fronts. Il y a quelques juristes qui se battent sur un certain nombre de terrains, sur un certain nombre de questions. Il y a des spécialistes de droit de l'environnement qui se battent beaucoup plus, mais pour la défense de la biodiversité et des espèces animales notamment menacées de disparition, mais qui généralement se désintéresse de la souffrance et de la sensibilité de chaque individu composant l'espèce protégée. Donc du côté du droit de l'environnement, pour d'autres raisons et avec un autre objectif, il y a des fronts qui, pour la protection de l'animal en tant qu'être sensible en lui-même, il y a quelques juristes qui se défendent pour faire interdire l'accès de la corrida aux mineurs de 14 ou 15 ans. Il y a d'autres, les grands chantiers, c'est l'extension de, j'ai fait allusion tout à l'heure, de la protection contre les actes de cruauté envers les animaux sauvages vivant en état de liberté naturelle avec les résistances des fédérations de chasseurs qui sont vraiment debout contre toute modification et toute interdiction de quelques pratiques de chasse aussi cruelles soient-elles. Il y a aussi actuellement en France des fronts pour faire interdire de manière générale, comme ça vient de se faire dans des pays voisins, les cirques avec animaux. Et je pourrais multiplier ainsi des exemples. Et puis, il y a aussi un autre combat plus théorique pour, et là, nous sommes quelques-uns à y réfléchir, à faire accéder certains animaux à la qualité de personnes juridiques.
D'accord, merci. Peut-être, alors, parce que là, il s'est passé quelque chose, donc en Nouvelle-Calédonie, c'était en 2016, c'est ça, 2015.
Oui. Vous voulez que je parle de la Nouvelle-Calédonie ou d'Ellington, qu'on a oublié là.
Comment?
Ou de mon chat Ellington qu'on a oublié.
Ah, j'ai oublié votre chat, non, parce que non, vous citez votre chat, mais vous pouvez faire parler votre chat sur la Calédonie.
oui, je peux faire parler
mon chat sur la Calédonie. Parce que c'est un point important, oui, me semble-t-il, parce que c'est quand même, là, ça a bougé. Ce matin, 4 personnes au moins ont cité ce qui s'est passé là-bas.
Oui, ça c'est... j'en parle alors.
Oui. On a...
Donc, en deux ou trois minutes, la Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité territoriale française qui a plus d'autonomie que n'en rêveraient les plus décidés des autonomistes corses. Et il y a, et bretons, mais ils sont plus, enfin bref, moi je suis Limousin, moi je ne suis pas concerné par tout ça. Je vous parle de la Nouvelle-Calédonie. Laquelle Nouvelle-Calédonie est divisée en trois provinces qui ont chacune une autonomie encore renforcée en matière d'environnement. La province du Nord, la province du Sud et la province des îles Loyauté, qui ont eu à cœur de se doter d'un code de l'environnement moderne. Et la dernière à l'avoir fait est la province des îles Loyauté, qui a intégré le principe de non-régression, en matière environnementale. C'est là que je pourrais vous parler de mon chat Arlington, mais on n'a peut-être pas le temps.
Voilà, vous avez 10 minutes, on va dire. Moins de 10 minutes.
J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que la question posée, c'est que dans ce... code de l'environnement de la province des îles Loyauté, qui a été voté en 2016 et qui a été mis en ligne sur le site de la province des îles Loyauté le 1er avril dernier, il y a un article 110-3 qui énonce, je simplifie, compte tenu des liens particuliers entre le peuple et la civilisation kanak et la nature, certains éléments de la nature peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres sous réserve des lois et des règlements. Et j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu un peu d'assez près comment ça s'est fabriqué, j'avais cru comprendre qu'en 2019 devaient être déterminés les premiers éléments de la nature qui se verraient dotés de la personnalité juridique avec des droits qui leur sont propres. Et les premiers candidats, d'après ce que j'ai compris, sont les tortues et les requins en tant qu'espèce totémique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'individu en tant qu'être sensible qui serait revêtu de la personnalité juridique, c'est une espèce, et même pas en tant qu'espèce de menacée de disparition. Alors si les requins et les tortues de Nouvelle-Calédonie peuvent être revêtus de la personnalité juridique avec les droits qui leur sont propres, et votre chien, et votre cheval, et mon chat, Ellington. À qui j'en avais parlé, d'ailleurs.
Et je voulais vous le citer abondamment. Oui.
Et j'en avais parlé en lui faisant remarquer que peut-être il allait être bientôt une personne.
C'est pareil.
Et il m'avait répondu, parce que je parle beaucoup avec mon chat Ellington,
il m'avait répondu,
mais voilà la personnalité juridique, mais, et le principe de non-régression, m'a-t-il dit. J'ai dit, mais le principe de non-régression, grâce à Michel Prieur, c'est dans le code de l'environnement des îles Loyauté, ça peut se concevoir en droit du travail, mais qu'est-ce que ça vient faire avec notre débat? Et mon chat Ellington m'a répliqué en me fixant droit dans les yeux, qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, c'est que moi, j'ai déjà un statut de demi-dieu et tu voudrais que je redescende dans la catégorie du dessous.
Tout le monde chez soi a un chat qui a un statut de demi-dieu, j'imagine. De trois quarts de Dieu, parfois. Enfin. Bien, merci.
J'ai pas pu m'empêcher, je vous prie de
bien. Non, j'ai entendu, je voulais le. Ouais. Non, parce que j'ai un chat aussi qui se prend pour un dieu, en tout cas, lui.
Oui, alors je me tourne sur ma droite, vers Isabelle Desmêlés, responsable du.
Il y a aussi un chat qui se prend pour un dieu.
Oui, c'est la façon un peu des chats de faire, hein, plus que les chiens, je trouve.
Ah, bon. C'est un autre débat.
Allons sur le refuge et voyons ce qui se passe là-bas, à Landerneau, à côté d'ici.
Pour moi, ce qui est vraiment original, donc peut-être décrivez un peu. On peut faire une description de vos actions du côté des EHPAD, du côté des enfants,
d'accord,
etc.
Le lien. Voilà. Donc, alors,
Et même le réseau aussi, le réseau d'accueil.
Oui. Alors donc. Ça change un petit peu de sujet, mais pour autant, quelque part. Donc, le refuge, qu'en fait, quand il a été créé il y a 21 ans, c'était une toute petite structure. Donc, comme je vous ai expliqué, avec 23 places, voilà. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après, on se trouve toujours une petite structure, mais avec toute l'équipe du refuge, tous les bénévoles. On a pu mener des actions un petit peu sur différents fronts. Alors, la première chose, c'est quand on a décidé de reprendre le refuge, moi, il y a quelque chose que j'entendais depuis toujours et que j'entends toujours, hein, c'est pourquoi tu vas t'occuper des animaux, il y a plein de... Voilà, et tu ne t'occupes pas des humains. Et donc ça, c'est cette séparation qui m'a toujours... énervée, si ce n'est pour pas dire plus, j'ai voulu justement, enfin nous avons voulu, montrer que pas du tout, non seulement les liens sont évidents, mais en plus sont très étroits. Et dès la deuxième année, on a ouvert le refuge, créé un rôle social, ce qu'on appelle un rôle social, c'est-à-dire qu'effectivement, ce petit refuge, il accueille tous les jours, 7 jours sur 7, les jours fériés. Tout public. Alors, dans les bénévoles, on a du plus jeune au plus âgé. On a nos, ça aussi, c'est du rôle social. Des personnes qui viennent faire la cuisine, qui sont en retraite, voilà. Et puis, cette volonté d'ouvrir le refuge aux établissements médico-sociaux. Toute la semaine, différents établissements de tout le Finistère, où c'est bien des personnes âgées, donc des EHPAD, aussi bien des personnes en situation de handicap, venant de femmes, foyers d'accueil médicalisé, des enfants en situation de difficulté, des autistes, etc. Et donc, voilà, le lien s'est fait aujourd'hui. Les gens sont toujours étonnés quand ils arrivent au refuge. Parfois, les chiens, il n'y en a pas. Parce qu'ils sont tous en promenade, ils sont tous, et ça c'est très très souvent, ils viennent, plusieurs associations dans la journée viennent, et donc peuvent un petit peu développer le lien avec l'animal. Et parfois, il y a eu des histoires formidables, de jeunes en situation de difficulté qui ont trouvé des liens, un lien social, ça c'est vraiment très important. D'autres actions. Qui sont menées par le refuge, c'est des actions d'information, justement sur la protection animale, notamment en matière de stérilisation. Ça aussi, c'est un combat à mener. Tout le monde n'est pas d'accord parce que c'est toujours un sujet tabou, pour les chiens, le refuge stérilise systématiquement les mâles comme les femelles, et pour les chats, bien entendu, aussi. Notre combat, c'est d'essayer de faire comprendre, parce que certains considèrent surtout pas. Essayer de faire comprendre que c'est dans l'intérêt, vu le nombre de demandes d'abandon que l'on a. Au niveau des chats, c'est une catastrophe. C'est pire que tout. C'est-à-dire que là, on a dépassé les 200 chats. Alors, ils sont tous en famille d'accueil. Nous accueillons, on est 35 familles d'accueil pour entre 150 et 200 chats. Donc, imaginez le nombre de chats parfois qu'il y a dans les familles d'accueil. La stérilisation est importante, donc on développe ces actions, ces informations, auprès des étudiants. Ça fait 4 ans que je le fais auprès des étudiants, mais on a des projets de le développer dans les écoles aussi, d'expliquer cette misère animale. On a mis en place une campagne de stérilisation, ce qu'on appelle les chats libres, c'est-à-dire que nous allons sur des différents secteurs, dans tout le Finistère, on stérilise. Et puis on remet sur site et on a des nourrisseurs qui viennent régulièrement quand il n'est pas possible de les faire adopter. Et puis depuis 4 ans déjà, on a développé une campagne de stérilisation. C'est-à-dire que le refuge donne un financement à la stérilisation et à la castration des chats. C'est quelles que soient les ressources, il n'y a pas de critères de ressources. On donne 20 euros pour la stérilisation des femelles et 10 euros pour la castration des mâles. Donc, on essaye de faire de la publicité par affiche. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est les actions importantes à mener parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'un chat peut très bien vivre dehors sans problème. Il se débrouille tout seul. Et donc, alors que nous, on constate tout le temps régulièrement qu'ils ont une espérance de vie très restreinte quand ils sont laissés à eux-mêmes. C'est des maladies, donc c'est... Enfin, voilà. Donc, les chats... Alors, les chiens, la population, on arrive effectivement parce que au niveau des chiens... je pense qu'il est rentré à peu près dans les mœurs que l'identification est obligatoire. On a très peu... On récupère aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, il y avait encore beaucoup de chiens qui n'étaient pas identifiés. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui le sont. Par contre, les chats... Ah non, alors par contre, les chats, faire identifier un chat... Non, ça c'est non, faut le... Et donc, on récupère beaucoup de chats, et les gens, on essaye de leur expliquer l'importance. Alors c'est vrai que ça fait pas très longtemps, c'est que depuis 2012 qu'il est obligatoire de faire identifier un chat, mais il y a beaucoup de gens qui perdent leur chat, et puis qui ne le retrouvent pas, parce que on l'a récupéré, il a été adopté, enfin, voilà.
D'accord. Donc on voit, ça bouge du côté des jurys, ça bouge, enfin il y a des gens concrètement qui se retroussent les manches et qui font des choses. Et du côté de, on va reprendre le débat tout à l'heure, du côté de la science, comment les choses, d'après vous, Christelle, évoluent ? Est-ce qu'on va vraiment vers plus de solutions alternatives, qu'elles soient numériques ou in vivo, ou tout ça c'est des histoires ?
Alors, je ne sais pas si moi, je vais pouvoir répondre à tout ça, mais en tout cas, je vais parler en mon nom. En tout cas, moi, c'est mon objectif.
Et Séverine, mademoiselle, si vous voulez prendre la parole, c'est le
sujet. Si je peux éviter de travailler sur les animaux, je le fais sans problème. Voilà, moi, mes thématiques, je suis physiologiste, donc je vais étudier les mécanismes intégratifs. Donc c'est vrai.
Est-ce que vous voyez déjà des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire qui arrivent ? Est-ce que déjà aussi vous partagez vos données de façon à ne pas répliquer des expériences qui ont été faites ailleurs ?
Oui, on partage. Après, la recherche, c'est un domaine où...
Y compris en biotechnologie, parce qu'il y a quand même des brevets qui sont le contraire de la partage.
Quand on parle de brevets, là, je pense qu'il n'y a peut-être pas d'échange. Après, on parle de gros laboratoires. Donc là, je ne sais pas. Je ne vais pas dire des choses. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est ce qui est demandé, en tout cas, dans la législation, de partager les données. Donc, tant qu'on peut le faire... Alors, je sais que nous, en local, dès qu'on peut partager, on va échanger. Là, je vois une chercheuse demain qui travaille sur un domaine assez proche du mien et qui me pose quelques questions. Donc, je vais aller partager mes connaissances avec elle. Voilà, donc on va essayer de trouver des solutions.
Donc globalement, ça va dans le bon sens.
Pour l'enseignement, par exemple, dès qu'on peut utiliser des méthodes alternatives, donc il y a beaucoup de choses sur bioinformatique pour étudier les grands mécanismes. On ne va pas passer par l'animal automatiquement. Donc il y a beaucoup de choses, en tout cas, on essaye d'éviter au maximum. D'accord. Malgré tout, l'apprentissage, quand il y a des étudiants qui vont faire de la physiologie plus tard, quand ils vont arriver en thèse, ils n'ont pas eu déjà au moins une vision du travail sur l'animal, en expérimentation animale. Quand c'est bien encadré, ils ne savent pas forcément arriver en thèse s'ils sont capables de travailler sur les animaux, donc ils font des mauvais choix. Donc il faut aussi leur expliquer ce qu'est l'expérimentation animale, comment on travaille. C'est important en fait. Donc les méthodes alternatives, ils apprennent beaucoup de choses. Donc on utilise tout ça en enseignement. En recherche, quand on peut, on essaye. La bioinformatique, mais la bioinformatique, ça a aussi ses limites. Et en fait, on arrive toujours à, par rapport à nos questions de recherche, il y a toujours une limite.
D'accord. Voilà. Et sur le sujet de la protection, j'ai une dernière question peut-être à nos quatre invités. Y a-t-il des excès du côté de certains militants qui font des films par effraction ou qui, enfin bon. Et y a-t-il des excès selon, si on se situe du point de vue vraiment de la cause, considère-t-on ça comme des excès ? Est-ce profitable à la cause animale selon vous quatre, enfin vous trois, vous deux surtout, des actions qui frôlent avec la légalité, quoi. Bon. Enfin, qui frôlent, qui en sortent, même. Hein, qui...
Alors moi, je vais parler pour moi. Enfin, alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que, en fait, quand j'ai accepté de reprendre ce refuge, de recréer cette association, il y a 22 ans, je crois que j'étais beaucoup plus intolérante. J'étais remplie de préjugés, plus agressive. Je pense que Isaac est là pour un, voilà. J'avais beaucoup de préjugés. Parfois, je recevais sans doute les gens pas très bien. J'avais du mal quand les gens venaient abandonner. Et donc, en fait, le refuge m'a appris la tolérance. Et curieusement, je suis beaucoup plus calme. J'ai appris à écouter et à comprendre qu'il y a certaines situations effectivement qui peuvent être douloureuses. Après, pour en revenir, les excès, oui, je pense que après la force au refuge, c'est qu'on est une équipe avec des personnes totalement variées, et quand il y en a une qui fait un excès, l'autre essaye de calmer, entre guillemets. On arrive à s'écouter et à se parler. Personnellement, je pense que on ne pourra arriver à changer les choses que par ce qu'on fait là ce soir, par exemple, à l'information, à la discussion, à la communication. Je pense que la violence, c'est pas une solution, vraiment. Donc.
D'accord. Et du côté du droit, face à des actions qui sortent de la légalité. Quelqu'un qui défend objectivement les animaux, qui pense que c'est une cause qu'il faut faire avancer, pense-t-il qu'il faut, donner plus la parole à ces gens-là, de façon, enfin, modifier certaines choses, de façon à ce que les gens qui défendent cette cause puissent s'exprimer à l'intérieur du cadre légal, ou au contraire réprimer plus durement les sorties du droit, quoi, les sorties de route?
Moi, j'essaie de promouvoir avec quelques autres le droit animalier, et je combats pour le droit, pour montrer qu'on peut faire avancer les choses par le droit, qui est une manière de canaliser la force et la violence. Donc je dénonce avec la dernière énergie les actions violentes contre les personnes et les biens, qui sont contre-productives, qui alimentent l'agribashing, comme on dit, dans des conditions tellement stupides qu'avec le mauvais esprit qui me caractérise, je chercherai à qui profite le crime et je demanderai qui pourrait fomenter des... Non, mais bon, c'est intolérable. Mais en revanche... du point de vue du droit et de la liberté d'expression, par rapport notamment aux vidéos de L214.
Oui.
C'est plus de la ruse que de la violence. Je ne justifie pas toutes les actions de cette association, avec laquelle je n'ai absolument aucun lien, mais il faut savoir que d'après la Cour européenne des droits de l'homme, les informations relatives aux animaux participent à l'alimentation d'un débat d'intérêt général. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, la protection des animaux relève d'un débat d'intérêt général. Il y a eu un arrêt majeur de la Cour européenne des droits de l'homme qui date de quelques années, qui est l'arrêt Guseva contre Bulgarie, où un État a été condamné parce qu'une municipalité avait refusé de livrer à une militante des informations quant au sort qui était réservé aux chiens errants au nom de la municipalité. Ces données-là, ces images-là, elles existent quelque part et elles servent à alimenter un débat d'intérêt général. À partir du moment où, en l'absence de généralisation des vidéosurveillances, ces images qui ne sont pas trafiquées, qui correspondent à la réalité cruel et sordide.
Il y a des montages quand même peut-être.
Ah, j'ai bien dit que dans la mesure où ce n'était pas des montages, ouais. Je ne sais pas. Mais pour ce que j'ai pu voir dans certains cas précis, ce n'était pas des montages, puisqu'il y a eu une affaire les plus retentissantes par l'intermédiaire d'un salarié de l'abattoir de Limoges.
Oui.
Donc là, j'avais vu d'assez près de quoi il s'agissait, et dans ce cas-là, en tout cas, je peux affirmer que c'était pas montage. Ça peut l'être dans certains cas. Je traite la question d'un point de vue général. Eh bien, ces images-là, elles sont nécessaires pour alimenter un débat d'intérêt général. Si les municipalités, dans certains cas, et d'autres organismes publics qui les détiennent ne veulent pas les livrer pour alimenter le débat d'intérêt général au nom de la liberté d'expression, qui, d'après la Cour européenne des droits de l'homme, est aussi bien protégée lorsqu'il s'agit de militants de la cause animale que lorsqu'il s'agit de la liberté de la presse, eh bien, au nom de cette liberté d'expression renforcée, il y a une légitimité à se procurer des informations sincères et véritables qui ne sont pas mises à la disposition du public pour alimenter le débat d'intérêt général qui est la cause animale.
Oui, c'est clair. Dernière question, toute courte en fait. D'un point de vue subjectif, Christelle Bourvec, en tant que physiologie, chercheur qui travaille sur des rats, donc, là je m'adresse à votre subjectivité, non plus à votre objectivité scientifique, mais à votre subjectivité. Est-ce que ça vous inquiète parfois des événements qui se revivent dans la presse où il y a, je sais pas, des actions menées contre un laboratoire, par exemple?
Alors, ben oui, bien sûr, ça m'inquiète, parce que faisant de l'expérimentation animale, comme vous avez dit tout à l'heure, on a le mauvais rôle. Donc forcément, moi, ce qui m'embête, donc du coup, je rejoins tout à fait ce que M. Margonneau vient de dire, c'est plus tout ce qui est aussi la mésinformation. Donc le but ici, c'est de discuter, d'expliquer c'est quoi l'expérimentation animale. On ne fait pas ça parce qu'on n'aime pas les animaux. Voilà, ça c'est vraiment mon discours. C'est ce que j'explique aux étudiants que j'ai aussi en cours. Je pense qu'avec Mademoiselle, on a à peu près le même discours aussi. Donc ça, il faut vraiment mettre les choses... ça n'a rien à voir. Par exemple, en local, on a la structure bien-être en expérimentation animale qui va aussi, puisqu'il y a ce que fait le comité d'éthique avec les demandes d'autorisation de projet des chercheurs. Donc en local, on va intervenir aussi sur les projets et sur les procédures qui sont réalisées. Et si on trouve qu'il y a, par exemple, un rat ou une souris qui ne va pas bien, ben on va leur dire, puisque c'est notre rôle dans la SBEA, d'intervenir. Donc en local, nous, on intervient aussi si on estime que le registre de soins n'est pas bien rempli, qu'il n'y a pas de suivi de l'animal, on intervient. Donc en local, je pense qu'on est...
D'accord. Quoi, en fait ?
Parce que là, on va demander aux chercheurs d'utiliser les antalgiques qu'il faut ou vérifier qu'il est en accord avec son projet. Et si on estime que l'animal ne va vraiment pas bien, on va lui demander de le mettre à mort ou d'arrêter, en tout cas, son expérimentation.
Bien. Enfin, là, j'étais juste sur la perception par un scientifique de, voilà, d'action.
Et du coup, sur les excès, si j'ai juste 2 minutes,
oui.
C'est vrai que des fois, il y a des tracts donc en médecine, il y en a de temps en temps. Alors, nous, on estime qu'on travaille aussi...
En médecine, il y a eu quelque chose.
Ouais, il y a des tracts de temps en temps, justement, contre l'expérimentation animale. Nous, je pense qu'on fait très bien notre job. On intervient quand il faut. Voilà, après,
D'accord.
Les excès, il y en aura toujours. En tout cas, ce qu'il faut, c'est réussir à informer les gens et dire que comment on travaille. Parce que nous, on fait attention à ce qu'on fait. Et on ne fait pas d'expérimentation animale parce qu'on n'aime pas les animaux.
Les questions du public.
Oui, questions, remarques, parce que je ne sais pas si vous pourrez y répondre vraiment. Moi, je suis donc dans la protection animale. Donc, moi, ce qui me choque le plus souvent, en fait, c'est justement quand on se porte partie civile Donc on va au tribunal, donc ça a un coût pour les associations important, un temps important également, et pour au final souvent se voir soit l'affaire rejetée parce qu'il y a eu un vice de procédure administratif ou un gendarme a mis qu'on était une société au lieu d'une association, et donc ça annule tout, ou alors, et du coup on est obligé même de rendre l'animal qui a été brisé en quatre. Donc ça, c'est horrible. Vous imaginez bien que là, au niveau du bénévolat, ça peut en faire arrêter plus d'un. Et également, quand il y a des condamnations, on parlait du charnier de Millisac, où cette personne a une condamnation choquante, pour, je pense, pour beaucoup de Français, sans être forcément dans la protection animale. Enfin, dès lors qu'on a une sensibilité animale, de savoir que, qu'ils ont été, qu'ils sont décédés dans ces d'atroces souffrances, et que personne, enfin que 6 mois avec sursis, mais c'est rien. Cette personne a été également condamnée à 1 500 € d'amende qu'on n'a jamais vue. Et qu'on, je pense qu'on ne verra jamais, parce que a priori il y a un fonds qui est réservé pour les personnes, le particulier dès lors qu'il y a une condamnation, mais je crois que ça s'appelle émergence de mémoire, je ne suis pas sûre. Par contre, ça ne fonctionne pas pour les associations et les sociétés. Donc, est-ce que vous pensez qu'au niveau juridique, il y a quelque chose qui peut évoluer? Pour qu'un jour, déjà, les peines, c'est plus lourd, ça c'est en cours, on va dire, mais pour que surtout on aille jusqu'au bout. Un peu comme l'identification des animaux qu'on dit obligatoire et qui n'est absolument pas respectée en France. Et quand on demande au secteur le plus concerné, qui est le monde des vétérinaires, qui font un travail extraordinaire, il ne faut pas leur enlever, qui vont vous répondre « non, ce n'est pas à nous de faire respecter la loi ». Parce que nous, si on oblige notre client, parce que ce sont des clients, les gens qui viennent avec leurs animaux, si on oblige notre client à identifier son animal, mon client, il ne va pas être content parce que je l'oblige à dépenser. Donc c'est aussi un commerce chez les vétérinaires. Et donc malheureusement, ils ne peuvent pas imposer, en effet. Donc du coup, là, on est un petit peu dans un flottement pour faire respecter la loi.
Peut-être une... intervention d'un juriste à propos, je sais pas, de la lourdeur des peines, sur la difficulté pour une assos à se porter partie civile, etc. Ah, il y avait une autre question. D'accord, très bien. On a des juristes dans tous les coins.
Je suis avocate et je suis intervenue sur le charnier, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà.
Très bien.
Je suis de retour. Oui, c'est pour ça que j'allais vous voir après. J'étais partie dans le pays de la corrida pendant 4 ans et je suis de retour depuis un mois là, voilà, à Brest, à la maison. Et alors c'est un gros souci effectivement par rapport à comment est-ce qu'on va financer tout ça, parce que les associations, elles font un travail énorme, elles utilisent un temps énorme pour justement aider déjà la protection animale, et quand on arrive devant le tribunal, c'est très compliqué de savoir comment ça se passe. On a face à nous un procureur, on a un président d'audience, on a toute une enquête, on a des qualifications juridiques assez compliquées, notamment au pénal, et là où effectivement il faudrait que ça évolue, c'est le rôle du législateur, c'est le rôle de l'État, c'est qu'il y ait une harmonisation entre les possibilités d'obtenir l'aide juridictionnelle pour une association. Alors c'est possible, mais alors c'est très difficile de l'avoir, mais généralement on ne l'a pas. Et ensuite, justement, ces aides en qualité de victime, on peut les avoir en qualité de particulier, il y a toute une procédure, on n'a pas forcément exactement la condamnation, mais en tout cas on peut faire une action qui n'est pas ouverte aux associations de protection animale. Et lorsque la personne en face est insolvable, on n'a rien. Voilà pourquoi on en est arrivé là. Et c'est de ce côté-là qu'il faudrait pouvoir effectivement agir, parce que ça fait peur d'aller au tribunal, ça fait peur de prendre un avocat, parce que forcément on se dit on va devoir dépenser je ne sais combien. Et en même temps, il faut bien que les associations qui sont venues sur le terrain, elles voient des choses absolument abominables, qui ont apporté leur aide aux forces de police, aux gendarmes, à la DDPP, etc., puissent aller jusqu'au bout et porter leur voix au nom de l'animal. On parle des 100 voix. Vous avez l'association One Voice, justement, qui, je pense, son nom tire un peu de cette notion de 100 voix. qui puissent aller jusqu'au bout, assurer une condamnation à la hauteur. Alors, par rapport à la condamnation, c'est vrai que par contre, par rapport aux peines d'emprisonnement, ça peut choquer. Sauf que c'est toutes les matières où on peut être choqué lorsqu'on n'est pas dans le milieu juridique. Si vous avez en face une personne qui a un casier vierge, on parle de primo délinquant, on ne va pas aller le mettre un an en prison. Il ne va pas faire un an de prison ferme, forcément. Il y a un échelonnement. C'est petit à petit, bien évidemment, que les peines vont être faites. Ce que je dis toujours pour la protection animale, c'est la peine aujourd'hui la plus importante qu'on souhaite avoir, c'est une interdiction définitive de détenir tout animal. Et encore là, on a un vide juridique après. Lorsque, justement, on a cette interdiction, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Comment on va surveiller cette personne-là? Et encore une fois, qui est-ce qui fait le boulot? Ce sont les associations de protection animale. Ouais. Parce que s'il reprend un animal, c'est de nouveau une infraction. Il encourt 2 ans, ça on le sait pas, mais il encourt la même chose. Et ben, là, il y a un vide juridique, effectivement. Donc là, c'est le travail du législateur. On travaille, nous, on a été juriste, on essaye d'apporter des idées. J'ai fait le diplôme du professeur Marguenot. Je l'ai suivi, justement, où on a pu, chacun à sa façon, apporter en fonction de sa formation des idées. C'est l'issue, justement, de ce DU. Et dedans, justement, mon projet, c'était apporter une peine éducative à ces personnes. Donc, en plus de ne pas pouvoir avoir d'animal, tout animal, c'est le mieux de toute façon, moi, dans ces cas-là, parce que vu dans quel état on retrouve les animaux, si c'est pour un chien, il fera la même chose pour tout animal. Apporter aussi une peine éducative, notamment, ça peut être aller intervenir dans des refuges pour. Je sais que ça peut choquer, mais en tout cas, il y a la dimension éducative en matière de protection animale qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère avoir répondu un petit peu aux questions techniques.
Merci. C'est bien, on a les réponses de partout, là. À la toute dernière, il faut qu'elle soit courte, parce qu'il y a le top France Inter qui va sonner. Mais allez-y quand même.
Non, c'est même pas une question, c'est juste que je fais la protection animale, mais ça me renvoie tout simplement à mon humanité.
Voilà, oui, mais moi c'est un peu ma conclusion aussi, je pense qu'il faut sauver les animaux pour sauver les hommes.
Tout à fait, je fais le parallèle, pour moi c'est ça, c'est déjà un pas.
Merci à nos invités, Christelle Gouanvec, maître de conférences en physiologie à l'UBO, Isabelle Desmellets, maître de conférences en droit privé et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. Merci aussi à Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Et merci à Séverine Loisel, directrice du service général des plateformes technologiques de l'UBO, présente dans le public. Pour poursuivre la réflexion sur la souffrance et le droit des animaux, quelques conseils d'ouvrage. L'animal est-il un homme comme les autres? Les droits des animaux en question. Aurélien Barraud, Louis Schweitzer, aux éditions Duno 2018. Droit animalier, Muriel Falaise, édition Bréal 2018. Et l'éthique animale, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, édition Presse universitaire de France 2018, collection Que sais-je. Dans le prochain numéro du Lab U, histoire de ma thèse. Marie-Charlotte Dizès, doctorante au LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO, et à l'école doctorale de droit et de sciences politiques, nous présente son sujet de recherche, les raisons de ce choix, sa méthode de travail et ses premiers résultats. Le sujet de la thèse, les acteurs en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.